Émile Gaboriau. Les cotillons célèbres. 1. Les maîtresses légendaires. Avec Clovis, le premier roi des barbares francs, commence la longue liste de ses favorites qui, de règne en règne, se transmirent le sceptre du caprice et dont quelques-unes, plus habiles ou plus ambitieuses que les autres, dirigent et résument la politique de leur temps. Dans l'acception moderne du mot, pourtant, les descendants chevelus de Mérové, les héritiers abâtardis de Charlemagne et les premiers successeurs de Hugues Capet n'eurent point de maîtresse, mais plutôt à la fois plusieurs femmes de rangs et d'ordres différents. Ces femmes, de conditions subalternes que le souverain fait entrer dans la couche royale, nos plus anciens chroniqueurs les désignent sous le nom de concubines, mot latin qui rend imparfaitement leur véritable état. Les concubines étaient à peu près ce que sont aujourd'hui en Allemagne, berceau de la race franque, les épouses morganatiques des princes, à cette différence près que ces unions de la main gauche ne sauraient maintenant exister concurremment avec une autre alliance. Mais cette différence, on le comprend de reste, n'est que le résultat de la civilisation chrétienne qui ne tarda pas à proscrire cette sorte de polygamie. Les enfants des concubines étaient légitimes, bien qu'ils ne fussent pas aptes à succéder à la couronne, du moins dans l'ordre régulier de l'hérédité royale. Quelques-uns néanmoins arrivèrent au trône du fait de l'ascendant ou des crimes de leur mère. Ce rang officiel des concubines ne venait donc pas de la dépravation des mœurs comme on l'a cru longtemps. C'était un des traits caractéristiques de la constitution de la famille chez les barbares. Tacite nous montre les Germains pénétrés pour la femme d'un respect mystique qui va jusqu'au culte, mais ce sentiment délicat, complètement ignoré du monde ancien, ne s'élevait pas cependant jusqu'à la conception du mariage chrétien. L'Église, toujours prudente lorsqu'elle n'est pas toute puissante, céda à la rigueur des temps. Elle toléra chez ses maîtres ce qu'elle ne pouvait empêcher, et pendant plusieurs siècles encore, elle oublia de frapper sur les trônes l'adultère et l'inceste. Ce serait une longue et fastidieuse histoire que celle de ses premières favorites, maîtresses légendaires, dont, la plupart du temps, les noms seuls nous sont parvenus. Et quels noms ! La bouche se contorsionne à essayer de prononcer ces syllabes tudesques. Clotaire Ier aima tour à tour Arégonde, Schönzen, Gondryuc et Waldetrude. Les maîtresses de Gontran, ce roi bonhomme qui joue les pères nobles dans le drame mérovingien, s'appellent des noms harmonieux de Marcatrude et Ostregilde. Clotaire II, plus réservé, se borna à la seule Aldetrude. Miroflède et Marcoufoué se partagèrent le cœur de Caribert. Il n'est pas jusqu'à Dagobert qui n'ait fait résonner les échos de la forêt de Compiègne et de la forêt de Braine des noms de Raguetrude, damoiselle d'Austrasie et de Vifégonde. Le bon roi Dagobert est métatoré à travers. Éloi l'argentier, le sermon est fort, dit-on sur ce chapitre, mais le roi faisait la sourde oreille à ce que prétend, du moins, la fin du couplet grivois dont nous avons cité les deux premiers vers. Du milieu de ces figures effacées se détachent plusieurs physionomies saisissantes ou sympathiques qui personnifient ou symbolisent un règne, une époque. La première que nous rencontrons est celle de Frédégonde, la blonde maîtresse de Chilpéric qu'il finit par épouser après deux alliances royales. Il n'y a peut-être dans l'histoire que deux princesses, Marie Stuart et Marie-Antoinette, sur qui la calomnie se soit acharnée avec plus de rage. On a prêté à Frédégonde tous les crimes et toutes les infamies, et son nom, comme celui de Néron, est devenu, dans la race future, aux maîtresses des rois la plus cruelle injure. On en a fait une frénétique de luxure comme Messaline, une horrible empoisonneuse comme Lucrezia Borgia. Mais la critique moderne a fait justice de ces imputations absurdes, amoncelées sur elle par la haine des gens d'Église qui seuls alors écrivaient l'histoire. Elle a relevé toutes les contradictions et les impossibilités de cet échafaudage d'accusations monstrueuses qui s'étayaient les unes contre les autres, et de ce tissu d'horreurs sanglantes, il n'est resté que la démonstration nette, irréfutable et concluante de la supériorité des talents et du génie de cette femme. Née dans une condition obscure, esclave dans sa jeunesse, sa ravissante beauté et les grâces de son esprit firent la plus vive impression sur le cœur de Chilpéric Ier. Ce prince lui sacrifia, Audovaire et Galsuinthe, ses deux épouses légitimes et les trois fils qu'il avait eus d'Audovaire. Leurs fins misérables ou violentes, on les a longtemps attribuées aux artifices et à la scélératesse de la favorite. C'est elle qui avait tout fait, tout préparé, tout exécuté. Chaque coup de poignard partait de sa main blanche. Dans sa monomanie meurtrière, on lui faisait égorger jusqu'au roi, son mari et son seul protecteur. Par contre, on n'avait que des paroles d'excuses et de ménagement pour les crimes bien autrement réels et positifs de Brunehaut, sa rivale. La reine d'Austrasie, il est vrai, fut toujours au mieux avec le haut clergé. Elle trouva en lui un appui sûr dans le présent et un panégyriste dévoué pour l'avenir. L'école historique moderne a replacé les choses à leur véritable point de vue. Brunehaut nous apparaît, telle qu'elle fut, une princesse arrogante, impérieuse, à demi romaine, s'acharnant à une lutte au-dessus de ses forces et de son génie contre l'indépendance farouche des Leudes de l'Est. Frédégonde, au contraire, sortie des rangs du peuple vaincu pour s'asseoir sur le trône de Neustrie, personnifie la résistance à l'élément étranger. La cause qu'elle défend et qui triomphe avec et par elle est celle de la nationalité française dont les germes se développent déjà dans les provinces d'entre Seine et Loire. Frédégonde a, sur la reine d'Austrasie, un autre avantage, celui du désintéressement. J'ajouterai même, si le mot ne sonnait pas étrangement à cette époque, celui de l'humanité. En opposition aux exactions, à la cupidité insatiable de Brunehaut, on aime à constater la noble conduite de la femme de Chilpéric, se dépouillant de ses joyaux et de ses biens, pour soulager la misère et les souffrances générales dans une cruelle épidémie qui décima le royaume en l'année 580. Maintenant, quittons le terrain sévère de l'histoire pour entrer dans le cadre de ce livre. Frédégonde, cette femme que Chilpéric aima toute sa vie d'un amour exalté, lui fut-elle fidèle? Et moins, et les moines qui ont écrit le Gesta Francorum lui donnent pour amant du vivant de son mari, un des plus brillants officiers de la cour, Landry ou Landery, et accusent celui-ci de l'assassinat du roi. Ces deux imputations paraissent aussi peu justifiées l'une que l'autre. Voici le récit des moines. La reine, dit-il, venait de quitter Chilpéric qui se disposait à partir pour la chasse. Elle entra dans une salle de bain où elle attendait Landry. Le roi, revenant tout à coup sur ses pas, aperçut sa femme et lui donna un léger coup de baguette par derrière. Frédégonde, croyant que c'était son amant qui l'avait touché, dit sans se retourner et en le nommant qu'il n'était pas bien d'en user ainsi avec une femme comme elle. Puis elle ajouta, en riant, qu'il n'agissait pas en galant homme en l'attaquant par trahison. Le roi, confondu, s'éloigna sans lui parler, mais la reine, ayant tourné la tête, le reconnut, et prévoyant à quelles extrémités la jalousie le porterait, elle décida Landry à assassiner son maître en lui rapportant ce qui venait de se passer et en lui faisant sentir que ce crime était leur seule chance de salut. Il n'est pas besoin de relever toutes les invraisemblances de cette fable. Comment admettre que le prince outragé, dont la patience et le sang-froid n'étaient pas les vertus dominantes, ait pu s'éloigner sans mot dire au moment où le hasard lui révélait la liaison criminelle de sa femme? Il faudrait supposer à ce barbare la dignité et le bon ton d'un de nos raffinés de la civilisation. D'ailleurs, Frédégonde avait tout à craindre et rien à espérer de la mort de son époux. Elle demeurait seule, chargée de la tutelle d'un enfant de 4 mois, pressée de tous côtés par des ennemis furieux. Réduite à cette extrémité, la reine se montra à la hauteur du danger. Comme Marie-Thérèse, enflammant l'enthousiasme des magnats de Hongrie et les ralliant à la cause de son fils, nous la voyons, à la journée de Soissons, parcourir les rangs de l'armée, haranguer les soldats et faire passer dans l'âme de chacun la confiance et l'espoir. Elle mit à leur tête ce Landry, dont les talents militaires lui assurèrent la victoire. Blanche de Castille, la chaste mère de Saint-Louis, n'hésita pas, en pareille circonstance, à employer les bras du comte de Champagne, dont elle avait repoussé l'amour. Pourquoi donc la veuve de Chilpéric aurait-elle refusé les services d'un capitaine dévoué et habile qu'une calomnie posthume s'est plu ensuite à transformer en séducteur et en meurtrier? Le triomphe définitif de l'armée neustrienne assura le repos et la gloire du règne de Frédégonde pendant la minorité de son fils. Elle mourut dans tout l'éclat d'un trône affermi et pacifié à l'âge de 54 ans, ayant conservé jusqu'à cet âge toute sa grâce et toute sa beauté. Femme, reine et mère, Frédégonde nous paraît irréprochable de tout point. La dissolution des mœurs de Brunehaut, au contraire, est attestée par tous les historiens. Elle causa la ruine de la monarchie austrasienne. Et pour garder le pouvoir, on la voit octogénaire, livrée à une débauche précoce ses deux petits-fils, qu'elle ne tarde pas à faire égorger, quand ils essaient de secouer son joug odieux. Franchissons sans autre transition l'espace de plusieurs siècles qu'une nuit épaisse enveloppe et arrêtons-nous devant une touchante figure que tour à tour le drame et le roman ont popularisée. Agnès de Méranie, qui a inspiré à M. Ponsard une de ses meilleures pièces, ne fut pas la maîtresse de Philippe Auguste, mais son union avec ce prince ayant été déclarée illégitime par les foudres toute-puissantes de la papauté, on ne peut guère la considérer que comme une de ces épouses morganatiques dont nous parlions tout à l'heure. L'histoire des amours de Philippe et d'Agnès est triste et curieuse. Après la mort d'Isabelle de Hainaut, sa première femme, le roi de France avait demandé la main de la fille du roi de Danemark, Valdemar Ier, la princesse Isambourge. Elle lui fut accordée et le mariage se célébra en grande pompe à Amiens. Mais cette union n'eut point de lune de miel. Au lendemain de la première nuit de ses noces, le roi quitta brusquement sa nouvelle épouse et refusa de la revoir. Que s'était-il passé dans le royal tête-à-tête ? C'est un mystère que le temps n'a point éclairci. Dans la procédure qui eut lieu à l'occasion de la dissolution de ce mariage, le roi nargue d'aucune imperfection physique, il n'élève aucun soupçon sur la chasteté d'Isambourg. Il déclare seulement ressentir pour elle un éloignement insurmontable et, comme il fallait un prétexte aux évêques de son royaume pour rompre le lien religieux qu'il engageait, il allègue une prétendue parenté avec elle sans même en fournir la preuve. Son clergé, obéissant à ses désirs, prononça la nullité du mariage. Presque aussitôt, il épousait Agnès, fille du duc Berthold de Méranie, dont il s'était épris à la simple vue d'un portrait. Cette union, que l'amour des deux époux eut rendue si heureuse, ne tarda pas à être troublée. Le pape Célestin, et après lui, son successeur Innocent III, un des plus énergiques pontifes du Moyen-Âge, refusèrent de sanctionner le divorce prononcé par les prélats français. Vainement, le roi de France essaya de lutter contre le pouvoir formidable qui prétendait rendre toutes les couronnes vassales de la tiare. Le légat du pape assembla un concile à Lyon, excommunia Philippe et mit le royaume en interdit. L'amant d'Agnès ne se laissa pas abattre par cet anathème, arme terrible alors. Il fit casser par le Parlement la décision du concile et saisir le temporel des prélats qu'il avait condamnés. À ce jeu, il eut perdu sa couronne, si Agnès, voyant l'isolement se faire autour du monarque impuissante à lutter contre les superstitions de son temps, ne s'était décidée au plus douloureux des sacrifices. Elle craignit de causer la perte de Philippe Auguste et se retira dans un couvent où elle mourut de chagrin la même année. Elle avait eu de ce prince deux enfants qu'Innocent III n'hésita pas à reconnaître pour légitimes. Nous voici arrivés à une des époques les plus tristes de notre histoire. Un fou est assis sur le trône de France. À ses côtés s'agite une incroyable mêlée de trahisons, de débauches et d'infamies. Les princes du sang, les frères du roi, se disputent les lambeaux du pouvoir, tandis qu'Isabeau de Bavière, épouse adultère, mère dénaturée, le vend à l'étranger. Dans ce palais de l'hôtel des Tournelles, où la luxure trébuche à chaque pas dans le sang, une intéressante et douce physionomie se détache du moins sur le fond sombre du tableau, la maîtresse, ou plutôt la garde-malade de l'insensé Charles VI. Elle seule a le pouvoir de calmer ses accès furieux. Il obéit à sa voix, et le peuple attendri décerne à cet ange consolateur le surnom de petite reine. L'histoire nous apprend peu de choses d'Odette de Champdivers. C'était, dit-on, la fille d'un marchand de chevaux. Le roi la vit et la trouva belle. Ce fut Isabeau elle-même qui, pour se débarrasser du malheureux insensé, la jeta dans le lit de son mari. À dater de ce moment, toujours aux côtés du roi de France, on retrouve Odette de Champdivers, sa seule joie dans ses intervalles lucides, comme les cartes à jouer ou tarot étaient sa seule distraction. C'était en effet pour ce vieil enfant que l'on venait d'inventer les cartes dont l'imagier Jacquemin Grignonneur peignait si merveilleusement les bizarres figures. Tandis que chacun cherchait à s'attacher à une fortune nouvelle et prenait parti pour le Bourguignon ou pour l'Anglais, la petite reine restait fidèle au malheur. Tandis que nobles et grands seigneurs abandonnaient le monarque infortuné, Odette de Champdivers, symbole du pauvre peuple attaché à son maître, semblait annoncer déjà l'apparition prochaine de ces deux vierges, l'une sainte et l'autre folle, qui devaient sauver la France agonisante, Jeanne d'Arc et Agnès Sorel.